nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour et bienvenue dans notre deuxième épisode de Focus, l'émission qui vous propose de découvrir les académiciens à travers quatre faits marquants de leur vie. Marcel Boiteux, bonjour.
Bonjour.
Alors je rappelle que vous êtes académicien depuis 1992 dans la section économie politique, statistique et finance au sein de l'Académie des sciences morales et politiques. Après avoir évoqué hier vos études à l'École normale supérieure et à Sciences Po, entrecoupées par la participation à la campagne d'Italie en 1943, aujourd'hui nous allons évoquer votre ascension au sein d'EDF, puisque vous avez été donc le directeur général et puis actuellement président d'honneur. Mais avant d'en arriver là, vous êtes passé par toutes les étapes. Alors nous sommes en 1947, vous travaillez alors au CNRS, au Centre National de Recherche Scientifique. Comment avez-vous intégré EDF à cette époque ?
Il y a eu à cette époque un ou deux hasards tout à fait fondamentaux. Le premier résulte d'un tirage au sort. Maurice Allais, qui était le professeur auquel mon camarade Gérard Debré et moi-même avions été confiés par le CNRS pour faire des thèses, nous travaillions donc auprès de Maurice Allais des questions d'économie théorique, de mathématiques économiques. Et Allais nous dit un jour, écoutez, il faut aller aux États-Unis, c'est que là, les choses ont évolué formidablement depuis le début de la guerre, je vais prendre des bourses pour vous. Alors, il demande des bourses, et un mois après, il nous dit, écoutez, je suis désolé, j'ai obtenu qu'une seule bourse, on va tirer au sort. Alors, on a tiré à la courte paille, Debreu a gagné, est parti aux États-Unis, y est resté, est devenu prix Nobel, et moi, j'ai perdu, et je suis devenu président d'EDF. Voilà donc une bifurcation importante dans ma carrière. Alors ensuite, pourquoi suis-je entré à EDF ? Eh bien, quand Debré, qui a maintenant plus que moi, est parti, c'est moi qui suis devenu l'assistant principal de Maurice Allais pour ses enseignements. Et tant en temps, il m'a envoyé faire des cours à sa place ou des conférences sur des sujets pour lesquels il était sollicité, de caractère économique ou économique ou sociaux. Et lors d'un de ses séminaires, il y avait dans la salle un personnage assez original, un grand maigre, au teint pâle, avec les cheveux roux un peu, et une petite barbe rousse, qui était à mi-chemin entre le diable et Jésus. Enfin, c'est une tête tout à fait extraordinaire.
Description physique.
Et qui me dit à la fin, écoutez, monsieur, vous allez savoir ce qu'est une bonne politique tarifaire. Moi, je suis chargé de cela pour EDF. Est-ce que vous acceptez de travailler un peu pour nous? Alors, j'ai dit, je suis au CNRS, mais enfin, après tout, je peux peut-être aller passer une ou deux journées chez vous. À l'époque, j'avais pas de logement, donc j'habitais à Quincy-sous-Seine-Arsenault. On m'avait prêté une maison pendant 6 mois. Et il fallait 1h30 pour venir au bureau. Donc, je venais que 2 fois par semaine. J'ai jamais lu autant, d'ailleurs. Et puis, nous avons commencé à étudier ces questions de tarification, qui est devenue peu à peu une de mes spécialités.
Puisqu'à l'époque, il n'y avait pas encore de grille tarifaire.
Bien, à l'époque, on avait hérité des tarifs d'avant-guerre, lesquels avaient été indexés pour faire face à l'évolution de l'inflation et des prix. Mais curieusement, le terme d'indexation est un terme additif et non pas multiplicatif. Alors avant-guerre, vous aviez la première tranche de 2 francs 50, la deuxième à 2e, la troisième à 1 franc 50. C'était devenu 22 francs 50, 22 francs 20. Autrement dit, c'est additif et les relativités avaient disparu. Donc il fallait entièrement à refaire. Il fallait refaire complètement. Puis donc, attelé à cette tâche en me disant, après tout, ça m'amuse, moi, économiste, de passer 1 ou 2 ans là-dedans, puis après, je ferai autre chose. J'avais pas eu tout l'intention de rester à EDF.
Donc, au départ, vous y travaillez 1 ou 2 journées par semaine?
Oui, c'est vrai. Puis en 49, on me dit, mais si vous voulez entrer à EDF, alors, je me suis dit, après tout, je serais peut-être mieux intégré pour travailler, avec toujours cette idée que j'y passerai quelques années, puis je ferai autre chose après.
Donc, ça ne vous dérangeait pas de quitter le CNRS?
Non, c'était pas... De
toute façon, c'était une suite logique.
Oui. Je pouvais très bien revenir et devenir professeur après, c'était pas... À l'époque, on était très souple.
Donc puis, en 1949, vous intégrez...
J'entre à EDF pour de vrai, avec l'idée d'y passer 2 ou 3 ans, enfin terminer mon travail, puis ensuite de faire autre chose. Et au moment où j'allais les quitter, ils m'ont dit, écoutez, on vous offre une année sabbatique, c'est-à-dire que si vous voulez, ben, vous restez pendant 1 an, on va vous présenter à différents directeurs régionaux de province, pendant un, vous apprenez à la maison. Ah, monsieur, c'est quand même intéressant.
Quelle était leur idée derrière?
L'idée, c'était de dire, ce type va peut-être faire carrière chez nous,
Donc c'était une manière de vous garder.
Et une manière de garder pour voir, c'était de m'offrir cela.
Donc qu'est-ce que vous avez fait pendant cette année sabbatique?
Alors c'était intéressant parce que du coup, on m'a envoyé automatiquement voir le directeur régional. J'ai dit, écoutez, monsieur le directeur, je suis ravi d'être à vos côtés. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce serait jamais d'autre chose, c'est de voir les gens à la base. Et donc, j'ai systématiquement connu tous les métiers de base de l'électricité de France. Je suis monté au poteau avec les techniciens. J'ai relevé des compteurs. C'est très intéressant. J'ai appris, par exemple, quelle était l'origine de l'alcoolisme professionnel. Dans les Vosges, dans chaque ferme où on allait, avec le releveur officiel et puis moi, on avait un petit verre de Mirabelle après. Alors, j'ai pris le premier verre comme lui, puis le second. Puis on ne va jamais tenir comme ça. On est obligé, sinon il sera très vexé. Il faut. Moi, discrètement, je le vidais par terre quand on avait la chance d'avoir un sol en terre. Mais voilà. Alors, ce qui m'avait frappé, entre autres choses, dans la, je vois encore la ferme où nous étions, un type très aimable. Et puis je vois une espèce de banc blanc à côté avec un tissu dessus. Mais c'est une machine à laver, ça. Et oui, c'est la machine à laver. Quand il n'y a pas de tension, on peut pas la faire tourner. Alors j'ai donc appris les problèmes de l'électrification rurale. Il n'y avait pas de tension.
C'était dans les années 50.
Oui, c'était en 51, 52, par là, oui. Bon, enfin, quoi que ce soit, j'ai fait tous les métiers de base. Puis après, j'ai accepté de voir les directeurs régionaux. Et donc, j'ai appris toute la maison. Je suis le seul patron d'EDF qui n'a jamais connu les métiers de base. Ce qui m'a été très utile par la suite.
Donc finalement, au bout d'un an...
Et puis, je me suis dit, bah, maintenant, je vais rester après tout. Ils ont investi sur moi. Moi, j'ai investi dans la maison. Je reste. Et effectivement, alors j'ai mis 20 ans à aller au sommet, je suis resté 20 ans au sommet, comme directeur général, puis comme président.
Et donc en 56, vous devenez ingénieur au service des études économiques générales.
En 56, oh, il y a déjà un bout de temps que j'y étais.
C'est
que ça s'appelle études économiques à ce moment-là. Ça change de nom, je deviens donc le patron de cette équipe. Et puis on me nomme directeur des études économiques de l'EDF en 58. Et puis, je suis donc directeur des études. Mon équipe avait une certaine réputation au point que il y avait même des gens du privé qui renonçaient à leur traitement privé pour venir à EDF. Ils étaient payés 25% moins cher, 20% moins cher pour aller dans cette équipe. Et tous les dirigeants d'EDF des années 80 sont passés là. C'était l'école de guerre, en quelque sorte.
Qu'est-ce qui les intéressait? Qu'est-ce qui était mieux que dans
le
privé?
À l'époque, le calcul économique, l'analyse économique était très à la mode. Et mon équipe avait une certaine réputation. Parce que par ailleurs, j'existais quand même en tant qu'économiste ancien normalien. Et cette équipe a effectivement eu un certain rayonnement pendant quelques années. Et donc, j'ai été l'animateur de cette équipe. En même temps que je fais d'autres choses, parce que j'ai jamais uniquement fait mon métier. Alors j'avais été élu en 58 ou 59 président de l'Econometric Society, qui était c'est une sorte de consécration, parce que c'est l'économétrie, enfin c'était ma spécialité. En fait. Et j'avais eu comme prédécesseur des gens comme Samuelson ou même Keynes, c'est donc assez réputé. Et puis, j'avais présidé aussi la Société française de recherche opérationnelle. J'avais enseigné l'économie à Supélec, j'ai enseigné l'économie au Pont des Chaussées. Et donc, j'étais un mélange d'économistes d'entreprise et de professeurs.
C'était important pour vous de garder un contact avec des jeunes qui apprenaient également l'économie?
J'aimais bien enseigner parce que, à l'époque, j'étais extrêmement timide, mais par tradition, en quelque sorte, c'est mes chromosomes, j'ai des chromosomes de professeurs. J'étais très timide dans les contacts 1 à 1, mais devant un auditoire, aucun problème. Quand j'ai été nommé à Supélec, mon prédécesseur avait réussi à avoir plus, il n'y avait plus qu'un élève qui venait l'écouter. Alors moi, on est venu voir qui était ce gamin qui venait donner les cours d'économie. Ils sont tous venus, mais il y avait à l'arrière les gens qui lisaient leurs journaux, au milieu les gens qui préparaient leurs antisèches. Et puis peu à peu, j'ai vu qu'ils levaient le nez, et la deuxième fois, tout le monde était là, et j'ai pu faire mes cours sans que les élèves passent leur temps à autre chose. Donc j'avais un certain don pour ça, il faut reconnaître.
Et puis en 1967?
Alors en 67, je deviens directeur général.
Après avoir été directeur général adjoint, vous passez directeur général.
Voilà.
Suite logique.
Quelques mois avant, on me nomme directeur général adjoint, ce qui voulait dire, maintenant c'est vous qui allez prendre l'héritage.
C'est une surprise pour vous? Ou c'était normal? C'était la continuité en fait? C'était une ascension normale?
C'était un peu inattendu. Je crois que c'est en 56 que, en voyage avec Pierre Massé, je crois que c'était en Tchécoslovaquie, On a été faire une visite officielle à Arles-la-Bassée, puis en rentrant à pied à l'hôtel, on bavardait. Il m'a dit, écoutez, cher ami, maintenant, il est temps de faire un choix. Ou bien vous continuez à faire de l'enseignement, de la recherche, puis amener les études d'EDF, c'est très bien. On continuera, il n'y a aucun problème. Ou bien vous voulez faire carrière, et à ce moment-là, j'ai dit, faire carrière, j'étais déjà directeur, le plus jeune directeur de la maison. J'ai dit, faire carrière, ils ont d'autres idées sur moi. C'est comme ça que j'ai appris que j'avais des perspectives. Et puis donc, j'ai été nommé directeur général en 67. Je dois dire que ça a été un petit peu un coup de force de Pierre Massier, parce que j'étais quand même très jeune, j'avais tout juste 45 ans, que j'avais ça une connaissance totale de la maison, m'étant occupé de l'économie, puis un peu du social de la maison, mais j'avais jamais été chef de centre, jamais directeur opérationnel. Et je pense qu'il n'aurait pas réussi si Pompidou n'avait pas donné un accord tout à fait positif à cette proposition. Car pour lui, j'avais la rencontré quand, parce que un an avant ou deux ans avant, j'avais été nommé président du comité des sages de la recherche scientifique. À l'époque, la recherche scientifique, c'était 12 sages et une délégation de 80 personnes. Maintenant, c'est en 2000. Alors, ça marche, c'était léger. C'est nous qui répartissions les crédits et qui faisions évoluer les structures. Et donc, deux fois par an, il y avait un comité interministériel présidé par le Premier ministre, dans lequel le président des sages rapportait. Et pour pas près la réunion, je voyais Pompidou en tête à tête un ou deux jours avant. Donc, quatre fois, pendant mes deux ans de président, j'ai vu Pompidou en tête à tête. Il se trouve que l'un de ses contacts, on a commencé à bavarder un peu d'autre chose, de la gestion de l'État. J'avais dit, vous savez, monsieur le Premier ministre, il y a un problème qu'il faut absolument résoudre. Un fonctionnaire bien intentionné ne peut pas savoir ce que coûte ce qu'il fait. Il ne peut pas faire des choix. Il ne sait pas ce que coûte ce qu'il fait. C'est impossible. La comptabilité ne lui permet pas. Puis deuxièmement, il y en a un qui décide sans engager la responsabilité. Quand c'est pas celui qui décide, qui paye, non pas sur son argent, mais sur son budget, ça ne peut pas marcher, Maillot. Tout à fait raison. On a lancé à ce moment-là les premiers essais qui ont abouti aujourd'hui à la nouvelle conception de la loi de finances. Donc, je connaissais bien Pompidou, qui, semble-t-il, avait confiance en moi, puis une petite complicité de normalie en même temps, bien qu'il soit scientifique et moi littéraire. Il savait que j'avais fait Sciences Po, j'étais un peu mixte. Et donc, lorsque Massé a proposé, que je veux dire, il y a eu une résistance énorme dans la maison, en disant, mais...
Ah oui, au sein de l'entreprise elle-même, il y avait une résistance.
Mais il y avait deux directeurs adjoints qui avaient
55
ans. Ils pensaient que ce serait l'un des deux. Il a fallu recaser l'un et l'autre, lui, a joué le jeu. Mais ça a été une petite révolution.
Donc il a fallu quand même pas mal de temps pour que vous puissiez vous installer.
À partir du moment où le principal possible a quitté la maison, où l'autre a fait acte d'allégeance tout de suite, j'ai pu démarrer tout de suite comme directeur général. Et en prenant une première disposition, qui paraît banale aujourd'hui, réunir les directeurs tous les lundis. On ne réunissait jamais les directeurs dans cette maison. Et rien que ça, ça a changé un peu l'atmosphère de la maison.
Merci Marcel Boiteux. On se retrouve demain, cette fois-ci, pour évoquer la mise en place de l'énergie nucléaire en France. À très bientôt.